Bon, alors c'est une grande joie de vous présenter l'orateur, hein, Pasteur David Braun et sa femme Mary. Et puis nous, on se connaît depuis très longtemps, depuis 85. Et tout à l'heure, on a parlé avec David, on s'est rendu compte que certains d'entre vous, ils n'ont même pas été nés ou que certains étaient des bébés. Alors, ça fait quand même longtemps et c'est une grande joie pour moi de les avoir aussi ici aujourd'hui avec nous et pour ce week-end. Et je pense que vous allez vraiment bien profiter de ce week-end.
C'est bon, vous m'entendez? C'est parfait, d'accord. Je suis déjà venu avec Marie il y a 8 ans ici. Je ne sais pas si certains étaient déjà là. J'en ai rencontré 2 ou 3 qui étaient déjà là à cette époque-là. Voilà. Donc, rebonjour à ceux que je connais, mais bonjour à la plupart d'entre vous que je ne connais pas. Je suis pasteur à Paris, dans le 17e arrondissement, et responsable aussi, sur le plan national, des groupes publics universitaires. Donc j'étais secrétaire général pendant 9 ans, je suis actuellement président de l'association. Donc à ce niveau-là, j'ai eu la possibilité de faire pas mal de voyages. J'étais au Cameroun au mois d'août. Est-ce qu'il y a des Camerounais ici? Voilà. J'étais à Bafoussam. Alors c'est une bonne préparation pour les hivers marocains, parce qu'on est dans les montagnes, il fait froid à Bafoussam. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà, donc je pensais aller au Cameroun pour me réchauffer, mais finalement, ce n'était pas le cas. Alors, le thème, je pense qu'il y a une image qui va venir, en principe. Il y avait une image tout à l'heure, en tout cas. C'est en route vers la maturité pour une nouvelle dimension avec Christ. Donc, ce que l'on va vivre, c'est un séminaire. Un séminaire, c'est là où on apprend ensemble. On apprend ensemble, justement, à aller vers plus de maturité avec une nouvelle dimension avec Christ. J'aimerais, à la limite, mettre cela à l'envers. C'est pour une nouvelle dimension avec Christ, pour aller vers la maturité. Si vous permettez que je mette les choses un peu à l'envers. Parce que finalement, c'est ça. Mieux on connaît Christ et mieux on vit avec lui, plus on va aller vers la maturité. Et j'ai choisi, en fait, pour ce séminaire, de passer en revue tout un livre de la Bible. Donc, la lettre de Paul aux Éphésiens. Et un tout petit problème, c'est qu'il y a 5 séances et 6 chapitres. Donc, on ne va pas suivre exactement chapitre par chapitre, mais je crois qu'on va arriver jusqu'au bout quand même. Pourquoi choisir un livre? D'abord, il faut que j'explique un petit peu pourquoi j'ai choisi cela. Parfois, on reçoit toutes sortes d'enseignements, tel ou tel chapitre par ici, etc. Mais de temps en temps, ça fait du bien d'avoir une vue d'ensemble. Si Paul a écrit une lettre, c'est pour qu'on le lise du début jusqu'à la fin. Je crois que ça va nous aider à nous former notre pensée. Je ne sais pas si vous le savez, mais parfois, on appelait les premiers chrétiens des athées. On disait qu'ils étaient athées. Donc ça, c'était les non-chrétiens autour. Pourquoi ils disaient ça? Parce que les chrétiens ne correspondaient absolument pas, pour eux, à une religion. Il n'y avait pas de temple, il n'y avait pas de prêtre intermédiaire entre le fidèle et Dieu, il n'y avait pas de rituel. Ils se réunissaient tout simplement. Bon, nous, on a aujourd'hui des instruments de musique, on a le vidéoprojecteur avec des images, mais il n'y avait pas ça. Ils se réunissaient tout simplement et recevaient des lettres des apôtres qu'ils lisaient ensemble. Et les gens disaient, ça, c'est pas une religion, lire des lettres. Mais finalement, si, parce que finalement, c'est par la révélation de Dieu dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament qui était en train de se mettre en place avec les évangiles et les lettres envoyées par Paul ou d'autres comme Jean ou Jude ou Jacques, etc., qui se construisaient et qui apprenaient ce qu'était leur foi. Donc ils n'étaient absolument pas dans la religion. Maintenant, chacun d'entre nous, on est dans une culture différente, souvent deux ou trois cultures. La plupart, vous venez d'un autre pays et vous venez au Maroc, donc vous connaissez déjà deux cultures. Moi, je suis en France, je viens ici. Et dans chaque culture, on a des défis. Votre défi, c'est d'étudier ici, dans un pays où la plupart des gens ont une autre religion. En Europe, en France, on a autre défi. Dimanche passé, avec ma femme, on s'est joint à des centaines de milliers d'autres personnes pour manifester dans les rues de Paris contre le projet du gouvernement de permettre le mariage entre homosexuels. Avec beaucoup d'autres chrétiens, on a manifesté parce qu'on ne pouvait pas ne rien dire face à cela. Il y a plein de défis. Mais quand on revient vers les lettres de Paul, quand on revient vers la base, on va dire ça, ce sont des éléments qui sont importants pour nous, quelle que soit notre culture. Donc on va essayer de voir ensemble, tout au long de ce séminaire, ce que Dieu veut nous dire à travers cette lettre. Il y a déjà quelque chose que Éphèse et Fès ont en commun, ce n'est pas le nom, Éphèse et Fès, mais c'est quelque chose d'autre. C'est des villes à peu près de la même taille. Je me suis renseigné. Il y a à peu près 1 million d'habitants à Fès, si j'ai bien compris. Et apparemment, à l'époque de Paul, il y avait à peu près 850 000 à Fès. C'était une grande ville à l'époque. Donc, deux villes à peu près de la même taille, avec des chrétiens qui se réunissaient au milieu de cette ville. Souvent, on peut rejeter, souvent un petit peu, on va dire, inconnu par la grande population. Quand Paul est arrivé, on l'a vu comme une menace pour le métier de ceux qui travaillent l'argent et l'or pour faire des idoles et des simulacres du temple de Diane. Donc on a fait toute une manifestation contre Paul et les autres apôtres. C'était aussi donc le centre du culte de Diane, qui était la déesse de la fertilité. Donc Paul est passé là, il a passé plusieurs mois à Éphèse. Si vous voulez le lire après, vous pouvez le lire dans les chapitres 18, enfin plutôt le chapitre 19 et 20 des Actes des Apôtres. Il a passé à peu près 6 mois, si ma mémoire est bonne, non, 2 ans, 2 ans. Il a passé 2 ans à Éphèse. Une église s'est établie, puis il est parti. Et il a circulé un petit peu dans les contrées autour, il est revenu près d'Éphèse, il a fait venir les anciens d'Éphèse. Nous avons le récit dans Actes 20, et il dit aux anciens, donc aux pasteurs, aux responsables de l'église d'Éphèse, « Attention, je sais que vous devez veiller sur vous-même et sur le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi responsable pour les nourrir, parce que je sais qu'il s'introduira parmi vous des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. » Danger. Il leur dit aussi qu'il s'élèvera donc des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses. Veillez donc, vous souvenant que pendant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Donc voilà la réalité, d'être exhorté, encouragé à rester bon, à tenir ferme avec l'Évangile. Et à peu près 7 ans plus tard, Paul a écrit cette lettre aux Éphésiens. À peu près 7 ans plus tard. Paul était en prison. Il y a 3 références à ça. Si vous avez la Bible devant les yeux, il dit au chapitre 3, verset 1, qu'il est le prisonnier de Christ. Au chapitre 4, verset 1, prisonnier dans le Seigneur. Et le chapitre 6 qui est le verset 20, il dit « Je suis ambassadeur dans les chaînes ». Donc Paul était en prison, il ne pouvait pas aller les voir, mais il a dit « Il n'y a qu'une chose que je peux faire, je peux écrire une lettre pour les aider à continuer à marcher avec le Seigneur, à progresser vers la maturité en connaissant mieux Jésus-Christ. » Alors, on va regarder le texte et d'abord, comme dans toute lettre que l'on reçoit, il y a des salutations. Donc, c'est les versets 1 et 2. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints, c'est-à-dire aux chrétiens qui sont à Éphèse, aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc ça c'est la salutation. À cette époque-là, on commençait en disant le nom de l'auteur et après le nom des destinataires. Ensuite, il y a toute une partie du chapitre 1, versets 3 à 14, qui est une sorte de louange à Dieu. Alors, cette longue section est une seule phrase en grec. C'est très long. Paul, il aimait les longues phrases. Ça dépend de la langue que l'on parle, mais dans l'original, c'est une seule et même longue phrase où il remercie le Seigneur, où il bénit Dieu. Au verset 3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Vous avez vu? Trois fois le mot « béni ».« Béni soit le Dieu le Père, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. C'est quoi une bénédiction? Ça veut dire quoi, bénir? Surtout, à l'origine, le mot veut dire du bien ou faire du bien. Donc, quand on dit béni soit Dieu, on dit je vais dire du bien de Dieu. Je vais dire des bonnes choses concernant Dieu. Ça, c'est béni soit Dieu. Qui nous a bénis, il nous a fait du bien. Et en nous faisant du bien, c'est pour qu'on dise du bien, de nouveau, à notre tour. Le mot le plus proche, en fait, en français, serait le mot éloge. On fait des éloges de Dieu. Donc, c'est proche du mot, en fait, en grec. Dire des éloges, dire de bonnes choses sur Dieu. Et la deuxième chose que l'on voit, et on va le voir tout au long de ce texte que je vais lire, c'est que tout cela, nous avons en Christ. En Christ. C'est le dernier mot du verset 3. Et vous allez voir au début du verset 4, en lui, et puis il suit toute une liste de bénédictions, et que l'on va passer en revue. Donc je vais d'abord lire du verset 4, jusqu'au verset 14. Donc en lui, en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux, celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers et ont été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Je ne l'ai pas compté en lisant, mais de mémoire, 11 fois dans ce texte, en Christ, en lui, en lui-même. C'est vraiment quelque chose qui est répété. Et si c'est répété, c'est parce que c'est important. Si nous voulons aller vers la maturité en Christ, il faut que l'on sache profondément toutes les bénédictions que nous avons en lui. Il y en a 6 dans ce texte que je vais passer en revue. Le premier, nous avons été élus en lui, c'est le verset 4, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Élus, si on veut un autre mot, c'est choisi. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Et tout ce qu'il, chaque fois qu'on part de ce choix, c'est par la grâce. Ça veut dire que nous ne le méritons pas. Essayez d'y penser un moment. On sait que ce monde existe depuis des milliards d'années. Et avant même que ce monde existe, Dieu avait déjà prévu en lui-même de créer un univers. Nous, par exemple, voilà, il y a quelqu'un qui a dû fabriquer ce meuble. Après, je ne sais pas qui c'était, il a dû être très content. C'est joli, c'est pratique, il y a du bois, il y a du métal, mais dans ce sens, il n'a rien créé du tout. Parce que la matière était déjà là. Quand Dieu a créé, à partir de rien, il a créé tout ce qui existe, même avant même que ce monde n'existe, avant même la création, Dieu connaissait toute l'histoire humaine. Il savait que certaines personnes seraient choisies pour lui appartenir. Il avait déjà vu. C'est dire à quel point il nous connaît. C'est absolument extraordinaire. Il nous a élus avant la fondation du monde en Christ. Donc il nous a mis déjà dans sa tête, en quelque sorte, si je peux dire comme ça, en Christ, son Fils, pour que nous soyons rachetés. Mais là, j'anticipe. Et pourquoi il nous a élus? C'est pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Parce que Dieu savait, au moment, même avant la création de l'univers, il savait que le péché entrerait dans ce monde et qu'il serait obligé de trouver un plan de salut. Comment je le sais? Parce que la Bible nous dit que l'agneau, Jésus, l'agneau était immolé avant, comme avant la fondation du monde. Donc avant la création, Dieu savait que le péché serait là et qu'il faudrait une solution à ce péché, et c'est Jésus. Et qu'il a choisi un certain nombre de personnes pour bénéficier de ce salut. Et si vous êtes chrétien, vous êtes élu. Vous avez été choisi par Dieu. C'est une première bénédiction. Deuxième bénédiction, versets 5 et 6, nous avons été prédestinés, donc il a tout mis en œuvre pour que nous soyons ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Là, je me souviens de quelqu'un qui m'a posé la question, mais David, pourquoi enfant d'adoption? Parce que quand on devient chrétien, on est de nouveau. Il y a une naissance. On est régénéré. On devient enfant de Dieu. Alors, pourquoi l'adoption? La réponse, je l'ai cherchée. Et j'ai trouvé dans des livres d'histoire, c'est que à l'époque où Paul écrivait cette lettre dans l'Empire romain, selon la loi romaine, il ne s'agissait pas de naître dans une maison pour être en fils du papa. Il fallait qu'il adopte, qu'il dise, oui, cet enfant-là, c'est mon enfant. Donc, la naissance ne suffisait pas. Il fallait aussi que le père dise, oui, c'est mon enfant. Donc, nous sommes nés de l'esprit, nés de nouveau, et Dieu nous a adoptés, dire, oui, exactement, ces personnes-là, ce sont mes enfants. Je les ai adoptés. Et il nous a prédestinés, donc il a réfléchi à l'avance, dans ma façon de comprendre cela, pour chacun de nous, il nous a mis dans une situation à certains moments, parce qu'il voulait, il nous avait choisi, pour qu'on arrive au point de dire, oui, j'accepte que Jésus soit mon sauveur. Mais il a fait en sorte qu'on soit dans une situation. Moi, par exemple, il y a bien longtemps maintenant, quand j'étais étudiant, quand j'ai commencé mes études, je n'étais pas chrétien. Je suis arrivé dans la ville universitaire où j'ai fait mes études, et j'ai vu qu'il y avait un stand justement dressé par les GBU. Et on m'a parlé, on m'a invité à participer à des réunions, à des études bibliques. J'étais tout fraîchement arrivé dans cette ville, donc je me suis dit, okay, comme ça je vais rencontrer des gens. Ce n'était pas une motivation très profonde, très spirituelle, mais j'y suis allé. Et là, j'étais surpris. J'ai vu des gens prier, j'ai vu des gens lire la Bible, j'ai lu des gens qui savaient qu'ils étaient chrétiens. Et deux mois après, donc je suis aussi passé de la mort à la vie. Mais pourquoi je suis passé à ce moment-là? Je pense que Dieu avait déjà préparé en moi une recherche spirituelle. Je cherchais quelque part. Mais il a fait en sorte que je rencontre la bonne personne au bon moment pour cela. Et c'était même plus bizarre que cela, parce que je me méfie un petit peu de tout ce qui était religieux. Et je crois que j'ai à peu près la seule personne au monde qui a le même témoignage. C'est lorsque je suis arrivé dans le groupe d'études bibliques, ils se réunissaient dans la maison de quelqu'un qui faisait des études vétérinaires, un autre qui faisait zoologie. Ils avaient lâché par hasard ou par mégarde une chauve-souris dans la pièce. Et avant qu'on puisse faire l'étude biblique, il a fallu attraper la chauve-souris avec un drap pour pouvoir commencer l'étude biblique. Je me suis dit, mais je suis tombé chez qui là? C'était vraiment bizarre. Mais c'était bon pour moi, parce que après, ce drôle de commencement, en quelque sorte, ils ont prié. Et je dis, voilà, ils ont la vraie vie. Ils ne sont pas coincés, en quelque sorte. Ils peuvent lâcher une chauve-souris dans une pièce. Voilà. Dieu nous a donc prédestinés à être ses enfants d'adoption. Ensuite, verset 7, il nous a rachetés par son sang. Il nous a rachetés. Donc, cela veut dire que la rédemption, c'est tout le vocabulaire de la libération d'un esclave. Dans l'Ancien Testament, le même vocabulaire est utilisé pour la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte. Donc, ils sont sortis de l'Égypte, ils étaient esclaves, et Dieu les a libérés. Dans l'Empire romain à l'époque, le même vocabulaire était utilisé pour un esclave qui voulait acquérir sa liberté. Parce que quand je dis esclave, petite parenthèse, il ne faut pas voir uniquement ce qui s'est passé en Amérique et aux Antilles et tout ça, au XVIIe, XVIIIe siècle. L'esclavage était moins dur. Je ne dis pas que c'était bien, mais ce n'était pas l'esclavage comme on l'a vécu plus tard. Un esclave pourrait acheter sa liberté. Donc, ce n'était pas possible au sud des États-Unis, par exemple, dans les champs de coton. Quelqu'un de la famille de l'esclave avait un peu d'argent, il pouvait racheter le membre de sa famille, par exemple. Et c'est ça, la rédemption. Et nous avons été libérés de l'esclavage de notre péché par le sang de Jésus. Et nous avons donc le pardon de nos péchés. C'est une troisième bénédiction. Parce que non seulement il nous a choisis dès avant la fondation du monde, mais nous avons donc un Père céleste parce qu'il nous a adoptés, mais il nous a adoptés à un grand prix. Pas de l'argent et de l'or, mais le sang de son propre Fils. Et ça, c'est extraordinaire. Quatrième chose, en Christ, versets 8 à 10, il nous a inclus dans son plan éternel. Maintenant que nous lui appartenons, on rejoint le vrai cours de l'histoire. Nous sommes, en quelque sorte, des aventuriers de Dieu. Nous sommes rentrés dans le plan de Dieu pour l'histoire, de créer un peuple. Et que ce peuple reconnaisse Jésus comme étant à la tête. Donc, si on voit par exemple le verset 9, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Dans le Nouveau Testament, le mot mystère ne veut pas dire quelque chose de mystérieux, bizarrement. Un mystère, c'est quelque chose qui était caché et qui est maintenant révélé. Okay? Il y a plusieurs textes dans Colossiens, dans Éphésiens, dans Romains, qui utilisent le même mot. Donc, ce mystère, c'est que Jésus devait être vu comme le chef de toutes choses. Dans l'Ancien Testament, il connaissait vaguement que Messie devait venir, donc le Christ, mais il ne savait pas toute la richesse de la personne de Jésus. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein ou projet qu'il avait formé pour le mettre à exécution au bon moment, donc lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Cela ne veut pas dire qu'en Christ, tout le monde est sauvé. C'est pas ça. Mais que Christ soit reconnu comme le chef, que toute langue confessera et tout genou fléchira et confessera que Jésus est le Seigneur. Un jour. Mais actuellement, c'est nous qui le confessons. Pour mieux comprendre ce mot « réunir », il faut comprendre en fait le sens de ce mot qui veut dire littéralement, si je traduis le mot que Paul a utilisé, « mettre à la tête » ou « mettre à la tête de nouveau ». Donc, ça veut dire que c'est le résultat. Ce mot est utilisé, par exemple, en maths. Moi, je ne suis pas très fort en maths, je vous donne un exemple très simple. Si on fait un peu de calcul, on va dire 2 plus 2 font 4. On peut l'imaginer écrit sur la page. 2 plus 2 font 4. On met le résultat en bas. Dans le monde antique, c'était le contraire. C'était 2 plus 2 font 4. Et on mettait le résultat au-dessus, à la tête. Okay? À la tête. Et Christ est donc à la tête, c'est le résultat de l'histoire. Ou on l'utilise aussi pour la conclusion d'un discours. La personne va faire tout un discours et à la fin, donc à la tête, il disait, voilà la conclusion. Donc Jésus est vraiment la conclusion de l'histoire. La raison pour laquelle, à mon avis, Dieu a créé l'univers, sachant que le péché entrerait dans l'univers, et sachant qu'il faudrait un sauveur, et sachant qu'il allait envoyer son Fils, et que le Fils acceptait d'être envoyé pour apporter la réponse au péché, on peut dire que la raison pour laquelle Dieu a créé l'univers, c'est pour la gloire de son Fils. Moi, je le pense. Et donc, Jésus va être à la tête, comme on dit littéralement, à la tête. Et à la fin de l'histoire, on va le comprendre. C'est lui qui doit être glorifié. Et nous avons le privilège en tant que chrétiens, c'est pour ça qu'on va vers la maturité, de comprendre déjà, sans attendre la fin du monde, sans attendre le jugement, pour que Jésus soit vraiment à la tête et qu'on comprenne que Jésus est vraiment la raison pour laquelle l'histoire existe. Certes, par exemple, en France, j'ai déjà dit à des groupes et dans mon église, si le prof d'histoire commence à parler de l'histoire et les causes économiques et les causes politiques et tout ça, et le garçon, le petit garçon qui fait partie de mon église, lève le doigt et dit, mais maîtresse, mon pasteur dit que la vraie raison c'est Jésus. Je ne suis pas sûr que le prof va apprécier, surtout dans un pays dit laïque comme la France. Mais nous, on le sait, en tant que chrétiens. La raison pour laquelle l'histoire existe et le monde existe, c'est pour pouvoir glorifier Jésus. Donc c'est pour ça que toutes choses seront réunies, ça veut dire qu'on va reconnaître que Jésus est à la tête. Verset 12. C'est pas le verset 12, c'est le verset 11. J'ai fait une faute de frappe sur l'image. Le verset 11. Donc, nous sommes de nouveau prédestinés, suivant le plan, pour être héritiers. Donc, qu'est-ce que veut dire héritier? Le même mot était utilisé dans l'Ancien Testament quand le peuple d'Israël est arrivé dans la terre promise et ils ont réparti tout le pays entre les 12 tribus. Donc chaque tribu a hérité d'une partie du pays. Donc de la même façon, nous entrons en possession du territoire que Dieu nous donne, le royaume de Dieu, qui n'est pas un royaume géographique, hein, c'est là où on reconnaît Jésus comme roi. Nous entrons dans ce royaume et chacun de nous en est héritier, on hérite une certaine part de cela. Nous avons chacun un rôle à jouer, nous avons des bénéfices, des bénédictions de faire partie de ce royaume. Et remarquez bien que c'est nous qui sommes héritiers ensemble. Donc c'est au pluriel. Chacun aura, chacun a une part. On va revenir à ça parce que ça fait partie de la maturité, de savoir quelle est la part, quelle est la vocation particulière que le Seigneur m'adresse pour le glorifier. Ce n'est donc pas le hasard qui gouverne notre vie. Dieu prévoit que l'on soit à tel ou tel endroit, à tel ou tel moment, pour le glorifier. Et puis, la dernière bénédiction, c'est que nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Dans l'Antiquité, quand on envoyait une lettre, on mettait le sceau dessus. Bon, c'était un peu de cire dans lequel on marquait une image, et donc ça veut dire que cette lettre était authentique. Donc nous, on reçoit le Saint-Esprit comme sceau, comme preuve de l'authenticité du fait que l'on appartient à Dieu. Donc, on le reçoit, et c'est lui donc, dont il est dit, maintenant parce que nous avons entendu la parole de la vérité, donc la parole, c'est la Bible et la personne qui explique la Bible. Et donc nous avons cru, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, qui est comme un gage de notre héritage. Et là c'est un deuxième mot, une deuxième idée, mais très proche, un gage, où dans certaines traductions de la Bible on dit les arts. Donc quand on verse des arts, c'est pour dire que, voilà, je veux acheter quelque chose. Je n'ai pas l'argent sur moi actuellement, je donne un certain nombre de dirhams et la personne met l'objet de côté parce que j'ai versé des arts. Okay? Je ne sais pas si ça existe ici, mais dans certains pays, à certains moments, ça existait. Et Dieu nous a donné le Saint-Esprit comme garantie que ce qu'il nous promet à l'avenir, on l'aura. On n'a pas tout déjà. On est encore dans ce monde, on n'est pas encore dans l'éternité, on n'a pas encore la vie que nous aurons un jour, mais nous avons suffisamment en lui pour dire, voilà, on a le gage, on a les arts, on a la promesse de la part de Dieu pour la rédemption que Dieu s'est acquis. Alors, pourquoi? Je ne sais pas si vous allez arriver à voir, c'est un peu petit si vous êtes au fond. Mais il y a trois choses. C'est que nous sommes en Christ, et en Christ, nous avons été élus, adoptés, rachetés, inclus dans son plan éternel. Nous sommes héritiers et scellés pour former son peuple Parce que tout au long, c'est nous. C'est pas je, moi. C'est nous. Pour former son peuple à la louange de la gloire de Dieu. Et ça, c'est une expression qui revient à plusieurs reprises. Le verset 6, donc tout ça pour célébrer la gloire de sa grâce. Le verset 12, afin que nous servions à célébrer sa gloire. Le verset 14, pour célébrer sa gloire. Donc, au fond, il y a une sorte de, on peut dire, de combat pour dire qui est le plus important. Dieu a fait tout cela pour nous, mais finalement, on n'en reste pas là, on dit, on veut que ce soit Dieu qui est glorifié. C'est pas nous finalement, c'est la gloire de Dieu que l'on veut. Donc, même si on raconte les bénédictions, on va dire, oui, mais c'est Dieu qui a fait ça. Ok, j'en suis le bénéficiaire, mais c'est Dieu, c'est à la gloire de Dieu. Et même ici, et on le voit également dans 1 Corinthiens 15 par exemple, une sorte de, j'ose pas dire bagarre, mais enfin vous allez comprendre ce que je veux dire, entre le Père et le Fils pour dire, voilà, le Père dit, je voudrais que l'univers existe pour la gloire de mon Fils. Et le Fils remet ça au Père, me dit, non, c'est pour ta gloire. Et le Père dit, non, c'est pour ta gloire, en quelque sorte. Cela, on le voit, un certain nombre de versets dans la parole. Pourquoi? Parce que dans l'amour, on veut le bien et la gloire de l'autre. Et trop souvent, on est extrêmement égocentrique. C'est moi, je veux cette bénédiction, je veux. Alors que d'une part, c'est nous, c'est pas je. Et le nous, c'est pour la gloire de Dieu. Donc, si on veut progresser vers la maturité, on a déjà, dans ce premier texte, quelque chose de très profond et de très fort. Nous avons toutes ces bénédictions en Christ, pas ailleurs, pour former un peuple à sa gloire. Donc trois fois, pour célébrer sa gloire, pour célébrer sa gloire, et au verset 6, pour célébrer la gloire de sa grâce, parce que nous ne le méritons pas. Le méritons absolument pas. C'est pourquoi, ce sont les versets, c'est les mots suivants pour terminer ce chapitre. C'est pourquoi, je vais lire de 15 à 23, Ephésiens 1, 15 à 23. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Moi aussi, dit Paul. On peut imaginer les Éphésiens réunis là, chez quelqu'un. Ils ont entendu toute cette immense phrase avec toutes ces bénédictions. Et Paul dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, de votre amour pour tous les chrétiens, pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Et je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. En résumé, et on va essayer de voir deux ou trois choses dans ce texte, en résumé, il dit, toutes ces bénédictions-là, c'est tellement énorme que vous n'allez pas tout comprendre du premier coup. Il faut une vie de relation avec Dieu pour creuser, pour approfondir tout le sens de ces bénédictions. Donc, moi, Paul, je prie pour vous, Éphésiens, que vous puissiez bien comprendre. C'est intéressant. Je crois que nous aussi, on peut s'inspirer de cela et prier également les uns pour les autres, pas uniquement, même si ça fait partie, qu'on puisse être en bonne santé, qu'on peut réussir ses examens, qu'on peut résister à la tentation, etc. Mais aussi, on peut prier les uns pour les autres, que le Seigneur nous aide à comprendre toutes les richesses. Plusieurs prières de Paul vont dans ce sens. Donc, c'était vraiment un modèle biblique de prier les uns pour les autres. Non pas parce qu'il y a un problème. Parce que Paul, il dit, j'ai entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, votre amour pour tous les saints. Vous pouvez remercier le Seigneur pour ça. Mais non seulement parce qu'il y a un problème, non seulement parce qu'on est face à une difficulté, mais simplement prier les uns pour les autres, qu'on puisse progresser dans la foi. Je ne vais pas insister là-dessus. Si vous voulez noter les références, vous pouvez, mais il y a plusieurs versets qui disent que l'on doit prier sans cesse. Bon, je ne pense pas que cela veuille dire, il ne faut pas se culpabiliser, ah, ça fait 3 minutes que je n'ai pas pensé en quelque sorte, ce n'est pas dans ce sens-là, mais c'est essayer d'être en relation avec Dieu. J'aime bien là aussi le genre de prière où tout d'un coup on attend quelque part devant la caisse du magasin pour payer et puis voilà, on pense à quelqu'un, ah oui Seigneur, bénis-le, aide-le, etc. Bon, ça c'est un peu le prier sans cesse, c'est pas forcément une réunion de prière, c'est parce qu'on a pensé à la personne et on lance une petite prière pour cette personne. Je pense que c'est dans ce sens-là. Éphésiens 6, Romains 12, Colossiens 4 disent tous de prier sans cesse, mais également de le faire avec action de grâce. Si je prends un seul de ces textes, Colossiens 4, 2, nous lisons, persévérez dans la prière et veillez-y avec action de grâce. Donc, remerciez le Seigneur pour tout. C'est vraiment, je pense, la clé pour bien prier, de le remercier. Chacun de nous, on est très tenté de se plaindre pour plein de choses. Tout le temps. Tout le temps. On va dire, c'est humain. Le peuple d'Israël l'ont fait, ils ont traversé le désert. Ils étaient libérés de l'esclavage. Ils commençaient à dire, bon, qu'est-ce qu'on mangeait bien en Égypte? Alors que finalement, ce n'était pas forcément le cas, mais ils se plaignaient. Et quand on pense à toutes les raisons de remercier Dieu, voilà, faisons-le quand même. Moi, quand j'étais pasteur dans l'Est de la France, on avait un frère dans l'église qui était aveugle. Et donc, souvent, j'étais repris et je disais, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai remercié le Seigneur parce que je vois, tout simplement. C'est facile d'oublier toutes les bonnes choses. Donc, et lui ne se plaignait pas. Petite anecdote, une fois on était en étude biblique, il y a une panne de courant, on n'avait plus d'électricité, et il avait la Bible en bras, il dit, ne vous inquiétez pas, je vais continuer à lire, parce que lui il pouvait avec les doigts. Donc voilà, il y a un petit avantage, mais à part ça. Donc, est-ce qu'on remercie le Seigneur pour toutes ces bonnes choses? C'est aussi important de rendre grâce. Comme Paul le dit au verset 16, je ne cesse de rendre grâce pour vous et je fais mention de vous dans mes prières. Mais pourquoi? Donc, je reviens à ce que j'ai dit. Ils remercient Dieu pour leur foi et pour leur amour et ils demandent qu'ils soient conscients d'eux. D'abord, leur espérance. verset 18, que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. L'espérance. Nous avons une espérance éternelle. Et je crois qu'il faut y penser. J'essaie de ne pas être critique, j'essaie d'être positive, mais je vais dire quelque chose qui peut sembler un peu critique, mais je dis quand même. Moi, je suis étonné que si peu de nos chants dans nos églises parlent de l'éternité, de la vie éternelle et de notre espérance future. Très souvent, ce sont des chants sur maintenant. C'est vrai que c'est important de louer Dieu maintenant, de le remercier maintenant. Mais j'ai fait toute une étude sur les livres des chants et très peu parlent de notre espérance. Donc, je vais enlever ma casquette de critique et je vais dire, si vous êtes compositeur de chants, écrivez des chants sur l'espérance. Apprenez des chants sur l'espérance. C'est vraiment important parce que ce verset le dit, que le Seigneur illumine les yeux de notre cœur pour savoir quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Donc, on peut prier les uns pour les autres, que l'on comprenne toute la profondeur de cette espérance. C'est vrai que parfois, quand on assiste à un enterrement, on pense à ça. Quand c'est un enterrement d'un frère ou d'une sœur, malgré la tristesse humaine, on peut dire, voilà, cette personne est maintenant auprès du Seigneur. Et je suis appelé à cela aussi. Nous sommes appelés à cela. Une éternité. Si je n'ai pas le temps de saluer tout le monde ici pendant ce week-end, on va dire, mais ce n'est que partie remise. On aura l'éternité pour se connaître, pour se saluer, pour discuter ensemble. Et c'est important. Ensuite, deuxième chose, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Quel est cet héritage qu'il réserve pour nous? Bon, nous sommes héritiers du Père, co-héritiers avec Christ, selon Romains 8. C'est quelque part toutes les bénédictions qu'il nous donne en Christ, en tant que enfant de Dieu, on hérite du Père des mêmes bénédictions, dans beaucoup de cas. La place qu'il réserve pour nous, pour que l'on puisse aussi glorifier Dieu à la place qu'il nous donne, cet héritage, cette part dans le royaume dont j'ai parlé tout à l'heure. La troisième chose, c'est qu'on puisse être conscient de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Verset 19. Qu'il illumine, donc au début du verset 18, les yeux de votre cœur, pour savoir quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Si vous voulez une traduction littérale de cela, c'est selon l'énergie de la force de sa puissance. L'énergie de la force de sa puissance. Qui, on voit au verset 20, Dieu a déployé en Christ en le ressuscitant des morts. Donc nous avons la même puissance à notre disposition. Et on va voir que la maturité, dans la suite, c'est que cette force nous aide à tenir ferme et à tenir bon dans tous les aspects de notre vie. Je ne pense pas que Dieu veut manifester sa force à un moment précis, lors d'une réunion, et qu'après, lundi ou mercredi ou jeudi, qu'on n'arrive pas à résister à telle ou telle tentation. Ça, c'est pas normal. C'est pas ça. La force, c'est pour vivre avec lui dans toutes nos relations, dans toute notre vie ordinaire et dans l'Église, ne serait-ce que aimer les autres. Et on va arriver à cela demain. Donc, voilà la force qu'il va nous donner, et notamment, au verset 21, pour que l'on puisse résister envers toute domination, toute autorité et toute puissance. Pourquoi ? Parce que verset 22, verset 22, Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, demain, on va continuer le chapitre 2. Et le chapitre 2 parle beaucoup de l'Église. Parce que c'est dans l'Église, le peuple de Dieu, que nous formons la nouvelle humanité que Dieu s'est acquise. Nous, quand on se promène dans la rue, les gens nous voient sur le plan sociologique, sans plus. Ils ne voient pas l'essentiel, c'est que nous sommes les enfants de Dieu et que l'Église n'est pas simplement un bâtiment, mais un groupe de personnes qui apprennent à glorifier Dieu et à l'aimer. Et c'est Jésus qui est le chef, la tête de cette Église. Et c'est pour cela que, et je vais revenir un petit peu en arrière pour terminer au verset 17, qui nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Connaître Dieu. Jean 17, verset 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. Le but de notre vie, c'est de le connaître, de vivre pour lui et avec lui, et cela, pour cela, il n'y a pas de recette magique, c'est d'approfondir petit à petit, toutes ces bénédictions. Et c'est pour cela que Paul prie pour les Éphésiens. J'aimerais prier pour vous. Seigneur, nous avons vu des choses extrêmement profondes ce soir. On est parti sur ce séminaire avec vraiment quelque chose de fondamental que nous puissions comprendre toute notre espérance, notre héritage, toute ta puissance avec ces différentes bénédictions avec lesquelles tu nous as bénis. Seigneur, aide-nous à y réfléchir, à prier pour mieux comprendre, à examiner ta parole pour voir ce que tu as à nous dire. Et ne pas nous laisser dévier du but de notre vie, qui est de te connaître et de te glorifier. C'est ça la connaissance que nous voulons, la maturité que nous voulons. Seigneur, aide-nous, même ce soir, à réfléchir à ces choses. Prépare la journée de demain. Prépare, Seigneur, tout le séminaire, tout ce week-end de Pâques, que tu nous bénisses alors que nous saisissions de mieux en mieux toutes les richesses de ta grâce déployées envers nous. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen.